Frères et sœurs bien-aimés, avec la fin de ce jour et la commémoration de tous les saints que nous avons honorés ce matin, voilà que nous nous tournons non plus vers la vive clarté du royaume des cieux, mais au contraire vers l'obscurité du tombeau. C'est un dimanche particulier, cela nous arrive tous les 7 ans. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Le dimanche, c'est le jour où nous faisons mémoire et de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Et en ce dimanche, si nous affirmons que le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous lui tenons compagnie dans l'obscurité du tombeau, comme nous emportons dans notre prière, dans cette veille, auprès du Seigneur crucifié, tous nos fidèles défunts, tous ceux qui nous ont précédés, nos aïeux dans la foi, nos parents, grands-parents, des enfants trop tôt disparus, où qu'ils soient dans le monde, nous les portons à présent dans notre prière pour que le Seigneur leur accorde l'éternel repos. Saint Paul, dans la seconde épître, nous a bien affirmé que si nous avons reçu le sacrement du baptême, et nous l'avons reçu et nous en vivons, ce baptême nous unit à la mort du Christ. Pourquoi ? Parce que c'est pour le pardon de nos péchés que le Christ s'est incarné. C'est une grande question qui a occupé les docteurs au Moyen-Âge. Si l'homme n'avait pas péché, Dieu se serait-il incarné ? Force est de constater que les Saintes Écritures lient toujours l'incarnation du Fils de Dieu au fait que nous sommes d'infatigables pécheurs, ou comme nous le disons à Notre-Dame, de pauvres pécheurs. Le Christ est donc venu. Il a pris chair de la bienheureuse Vierge Marie. Il s'est fait en tout semblable à nous, à l'exception du péché. Si la bienheureuse Vierge Marie, et nous sommes ici la terre de l'Immaculée, a été préservée de toute tâche du péché des origines, c'est justement pour mettre au monde celui qui allait venir nous en sauver. Elle a été préservée à l'avance, elle est en cela la porte du salut, elle nous permet d'accueillir en notre nature humaine Dieu qui se fait homme tout en demeurant Dieu. De telle sorte que les apôtres cheminent aux côtés de Jésus de Nazareth, aux côtés d'un homme, mais finissent par la voix de l'apôtre Pierre à reconnaître qu'il est le Christ, l'envoyé de Dieu, mais serait pu être un homme. Il est le Fils du Dieu vivant, c'est Dieu qui est venu nous sauver. Dans sa nature humaine se tient cachée la nature divine, de telle sorte que le bon Dieu, qui vraiment ne réagit pas avec nos manières, les Saintes Écritures nous disent à quel point le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour. Eh bien voilà que ce Dieu d'amour et de vérité a décidé de faire la vérité sur nos péchés, de prendre notre nature humaine, et saint Paul d'affirmer qu'il a été identifié au péché. Pour le dire avec les termes de Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain, il est l'agneau qui enlève les péchés du monde. Chaque année, dans l'Ancienne Alliance, on offre un agneau ou un demi-agneau, selon nos moyens, par famille, pour le pardon des péchés de l'année écoulée. Cette fois, ce n'est pas un agneau qui est venu de nos troupeaux, c'est l'agneau qui est envoyé par Dieu. Pourquoi ? Pour prendre sur lui tous nos péchés. De telle sorte que lorsque nous suivons le Seigneur et que nous l'accompagnons dans le désert et que nous le voyons vaincre toutes les tentations, il est vainc pour toutes les fois où nous nous laissons vaincre par elles. Il est victorieux pour toutes les fois où nous sommes défaitistes. Et c'est cette victoire que nous contemplons même dans l'obscurité du tombeau. De même en est-il dans la passion du Seigneur. Il a accepté, cela peut même nous étonner, il a accepté d'emprunter ce chemin de souffrance et de douleur, parce que le péché conduit à la souffrance et à la douleur, à la sécheresse du cœur et de l'âme. Et bien voilà que le Seigneur, en se saisissant de la croix, se saisit de nos croix. Et voilà que Dieu, en notre Seigneur Jésus le Christ, eh bien meurt sur le bois de la croix. Mais parce qu'il n'y a pas seulement en lui la nature humaine qui fait qu'aucun d'entre nous ne peut ressusciter de son propre chef, eh bien lui, le Christ, ne reste pas prisonnier de la mort. Il est descendu du ciel pour vaincre nos tentations, et ce qui conduit eh bien, à la tentation, c'est le péché, pour vaincre la conséquence du péché, qui est la mort. Dieu ne nous a pas créés mortels. Dieu nous a créés en Adam et Ève sous le régime de la foi. Et sous ce régime de la foi, voilà que le Seigneur ensuite les appelle de cette terre à vivre des réalités d'en haut, dans l'ordre de la grâce. De telle sorte qu'il aurait pu se passer, nous disent cette fois-ci les docteurs de l'Église, ce qui s'est passé pour la bienheureuse Vierge Marie, Adam et Ève, au terme de leur vie terrestre, lorsque le bon Dieu l'aurait jugé bon et nécessaire, les aurait, dans une assomption, fait monter à la gloire du ciel. Mais voilà que le règne du péché est venu en nous et que le Christ, en notre nom, est venu, lui innocent, prendre la place de tous les coupables que nous sommes. Et bien voilà que nous le suivons, même dans l'obscurité du tombeau, à travers sa victoire, de telle sorte que saint Luc nous dit dans l'Évangile que nous sommes chacun, par le baptême, des enfants de sa résurrection. C'est la promesse du baptême, mort avec le Christ. Plongé dans l'obscurité du tombeau, c'est avec lui que vous ressusciterez. Alors nous arrivons à Béthanie, dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Béthanie, c'est le lieu où le Seigneur aime se reposer, après les longues veilles de prière, après les journées, les semaines de prédication. Il va chez Marthe, qui devait être une bonne cuisinière, le Seigneur y revient, et Marie, tout comme son frère Lazare. Et nous avons entendu dans l'Évangile que Lazare est mort. Lorsque le Seigneur, qui affirme « Je suis la résurrection et la vie », apprend la mort de Lazare, comme nous, il pleura son ami Lazare. Et il se rend à Béthanie, les Saintes Écritures nous ont dit, le quatrième jour. Dans la tradition juive, il faut 3 jours pour attester que la personne est véritablement morte, comme dans notre législation française. Entre le décès et l'inhumation, il y a 3 jours, ce sont des restes chrétiens. Et bien voilà que le Seigneur arrive le quatrième jour. Il est véritablement mort. Le tombeau est scellé. Et il y a ce beau dialogue plein de foi. Marthe et Marie ont appris du Seigneur Jésus tous les mystères de l'Évangile. « Si tu avais été là, dit Marthe, mon frère ne serait pas mort. Tu nous aimes d'un amour d'amitié, tu ne l'aurais pas laissé partir. » Marthe peut le dire, elle a entendu parler, elle en a peut-être vu autant de miracles, de guérisons. Tout comme lorsque le Seigneur entre dans une ville pour annoncer l'Évangile et qu'il rencontre un cortège funèbre, comme nous les faisons lorsque nous accompagnons nos défunts dans nos cimetières. Et il voit là une mère qui pleure son fils. Et voilà que le Seigneur fait arrêter le cortège, ouvrir le cercueil et ressuscite en rendant ce fils à sa mère. Je sais que chacun d'entre nous, moi le premier, nous aimerions aussi que le bon Dieu ressuscite nos chers fidèles défunts, ceux qui nous manquent. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et le Seigneur, pour montrer qu'il est la résurrection et la vie, va donc appeler Lazare de l'obscurité du tombeau. Marthe et Marie lui disent « Mais n'y allez pas, Seigneur, il sent déjà !» La mort est bien consommée. Le Seigneur fait ouvrir la pierre et appelle Lazare du tombeau qui aussitôt se lève. Se lève comme il peut, nous dit l'Évangile, avec toutes les bandelettes. Ce n'est pas une momification, mais ce sont les traditions. Le Seigneur, lui aussi, dans le mystère de sa mort, aura les linges, c'est-à-dire un certain nombre de suaires, un certain nombre de bandelettes qui accompagnent le fidèle défunt dans sa tombe. Et bien voilà Lazare qui se relève d'entre les morts. Lazare aura à mourir une seconde fois. Il ne lui donne pas la vie éternelle ici-bas sur la terre. Il le rend à la vie pour attester. Béthanie n'est pas loin de Jérusalem. Et saint Jean nous précise qu'il y a un grand nombre d'autorités religieuses qui sont présentes. Des pharisiens, des scribes, même des grands prêtres sont là. Et voilà que l'encombrant Lazare, pour eux, revient à la vie. Ils avaient déjà l'encombrant Jésus de Nazareth, que certains disent le Christ, qu'ils veulent mettre à mort. Ils n'en sont peut-être pas encore là directement, mais je peux vous assurer, comme l'atteste Lazare, comme l'atteste saint Jean pardon, dans son évangile, qu'ils n'ont de cesse, maintenant que Lazare est ressuscité d'entre les morts, que de chercher à le faire périr. Eh bien, nous affirmons que notre Seigneur Jésus le Christ est la résurrection et la vie, de telle sorte que nos fidèles défunts, lorsqu'ils meurent et cette mort nous attend chacun, il s'agit d'une séparation. C'est la séparation de l'âme et du corps. L'âme, eh bien, elle s'élève face à Dieu, elle paraît face à Dieu. Et le corps, nous le déposons en cette terre, sur ces paroles des Écritures. Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière. Mais tu ne retournes pas complètement à la poussière, parce que tu n'es pas que poussière. Il y a en nous une dignité immense qui se tient dans notre âme. Si le corps est fragile, si le corps est temporaire ici-bas sur la terre, l'âme, elle, est éternellement jeune parce qu'elle est marquée par cette éternité divine. L'âme de nos fidèles défunts paraît donc face à Dieu. Et Dieu, dans ce jugement que l'on appelle particulier pour le distinguer du jugement dernier, eh bien voilà que le Seigneur fait alors toute la lumière sur notre existence. Nous ne sommes pas seulement jugés sur ce que nous aurions pu faire si la belle-mère était plus commode, si mes parents avaient été plus ouverts ou je ne sais quoi encore, non. Nous serons jugés sur ce que nous aurons accompli, sur l'amour, nous dit le Seigneur, que vous aurez eu les uns pour les autres. D'où le fait que dans sa prédication, le Seigneur insiste, il faut pardonner. Il faut que chacun nous pardonnions les offenses que l'on nous fait ici-bas sur la terre, pour que le bon Dieu en retour nous pardonne. Ce n'est pas du chantage, c'est juste l'ouverture du cœur. Si je suis capable de pardonner, avec le temps peut-être, si je suis capable de pardonner, mon cœur n'est pas refermé, mon cœur ne s'est pas asséché, mon cœur au contraire s'est ouvert. Et voilà que dans cette ouverture, eh bien, la grâce de Dieu peut descendre en nous et alors recevoir le pardon de Dieu. Eh bien, nous confions au Seigneur, qui est la résurrection et la vie, tous nos fidèles défunts pour que resplendisse à leurs yeux la lumière éternelle du ciel. Lorsque le bon Dieu fait entrer immédiatement dans la gloire du ciel, ce sont les saints qui entrent. Il y a ceux qui sont envoyés directement en enfer, parce que dans toute leur vie, ils ont refusé Dieu, ils ont refusé l'amour, ils ont désespéré, ils n'ont plus d'espérance. Et il y a tous ceux à qui le Seigneur offre, non pas tant une seconde chance que ce lieu de la miséricorde qu'est le purgatoire. Dieu est juste, paradis, enfer. Il est miséricordieux, il y a le purgatoire. Le purgatoire, c'est l'antichambre du ciel. Quand on est au purgatoire, on ne va pas en enfer. Lorsqu'on est en purgatoire, c'est pour aller au ciel. On purge, c'est la racine du mot, une peine. Et quelle est cette peine ? C'est qu'au moment de notre jugement particulier, c'est le grand désir de toutes les Écritures, quand est-ce, Seigneur, que je vais vous voir face à face ? Eh bien, voilà que l'on fait face au bon Dieu, on fait face à l'amour, on fait face au bonheur sans fin. Et être envoyé au purgatoire après avoir vu la plénitude de l'amour de Dieu poser son regard sur nous, voilà la peine. Et ensuite, ils entreront dans la cité sainte. Et au dernier jour, lorsque le bon Dieu décidera qu'il en est fini de ce temps, qu'il en est fini de cette terre, eh bien voilà que le Seigneur, qui est ressuscité d'entre les morts, qui s'est relevé du tombeau comme il a relevé Lazare, rendra à notre âme notre propre corps. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes ce corps. Nous ne nous habillons pas le matin en prenant notre tête, nos bras, nos pieds, en demandant à notre époux, notre épouse, « N'as-tu pas vu ma hanche ?» Nous sommes ce propre corps. Eh bien, le Seigneur, dans la vérité de son incarnation, a pris notre corps, et voilà qu'il rendra notre corps en vie éternelle. Il ne s'agira plus du corps comme nous l'avons maintenant. À travers la résurrection du Seigneur, nous entreapercevons le mystère de cette résurrection. Le Seigneur ressuscité passe toute porte close et entre dans le cénacle. Le Seigneur n'a pas besoin de manger avec ses apôtres ni de boire pour demeurer vivant. Il ne s'agira pas du même corps, il s'agira d'un corps devenu glorieux parce qu'il sera entré dans la pleine lumière du Seigneur, et celle qui anticipe cela pour nous, qui a suivi de si près le Seigneur dans le mystère de sa résurrection et de son ascension à la gloire du ciel, c'est la bienheureuse Vierge Marie que nous avons honorée le 15 août. Elle n'est pas montée seulement en âme comme nos défunts à la gloire du ciel, mais elle est montée dans son corps et dans son âme. Le bon Dieu qui a reçu son corps de la Vierge Marie a voulu avoir sa mère en chair et en os à ses côtés, celle qui le consolait, celle qui le prenait dans ses bras. Nous savons chacun que lorsque nous avions quelques peines, enfants, et dans les maisons de retraite, c'est également les mêmes cris qui reviennent. Maman, eh bien voilà la Vierge Marie qui entre dans la gloire du ciel. Son corps est devenu glorieux. Alors que nous rendons grâce pour Notre-Dame, eh bien nous voyons à travers elle et à travers le Seigneur ce qui nous attend au ciel. Alors que cette messe dominicale, eh bien, refasse notre espérance. Car de même que nous verrons Dieu face à face, de même que nous verrons le bon Dieu, nous reverrons nos fidèles défunts. Ceux que nous avons connus et ceux que dont nous avons entendu parler dans nos familles et tous ceux qui nous ont précédés, nous serons avec eux au milieu du cortège innombrable des saints, chantant avec les anges la gloire de Dieu. Ce sera pour nous le bonheur sans fin et la paix. Comment alors ne pas demander au Seigneur de hâter son retour plein de gloire, qui, avec son retour, rendra eh bien, la vie à tous nos fidèles défunts. Puisse-t-il nous bénir du haut du ciel, bénir, soutenir chacun de nos fidèles défunts, que la Vierge Marie, dans la gloire de son Assomption, elle qui est la Mère de Miséricorde, console tous nos fidèles défunts en purgatoire et hâte leur pleine adhésion à la Cité Sainte. C'est ce que nous faisons porter. C'est ce que nous portons, pardon, à l'autel du Seigneur qui est mort et ressuscité, que chacun de nos fidèles défunts le suive étroitement dans ce qu'il appelle la Pâque, le passage de cette terre à la gloire du ciel. Ainsi soit-il.